Et le journal est présenté par Benoît Bouscarel. Bonsoir Benoît.
Bonsoir à toutes et à tous. Le ministre iranien des Affaires étrangères va entamer demain une tournée diplomatique qui l'emmènera à Pékin, Moscou et Bruxelles. Son objectif est de tenter de sauver l'accord sur le nucléaire signé en 2015 et menacé par le retrait américain annoncé cette semaine. En attendant, sur le terrain, ce sont les conservateurs qui se font entendre. Reportage à suivre de notre envoyé spécial à Téhéran, Franck Madvon. En Argentine, le retour du FMI qui inquiète la population alors que Christine Lagarde indiquait hier qu'un accord d'urgence était en bonne voie entre l'institution et le gouvernement. Correspondance de Caroline Vic. En France, retour sur l'annulation des partiels à l'université de Nanterre ce matin et l'enquête de cette édition sur le business du rire. Ce sera avec Anne Brunel à la fin de ce journal. Les grandes manœuvres diplomatiques continuent en cette fin de semaine autour du dossier iranien. Depuis l'annonce en début de semaine du retrait américain de l'accord international conclu en 2015, les chancelleries sont à l'œuvre pour tenter de sauver ce qui peut l'être. Ce week-end, le ministre iranien des Affaires étrangères entame une tournée qui l'emmènera de Pékin à Bruxelles en passant par Moscou. Autant de rencontres pendant lesquelles va se jouer l'avenir de l'accord et en partie l'avenir de la région. Au lendemain des frappes israéliennes sur la Syrie, accusée d'abriter des bases iraniennes, la tension est toujours vive au Proche-Orient. Alors qu'à Téhéran, ce sont les voix les plus conservatrices qui, pour l'instant, se font entendre. Reportage dans la capitale iranienne de notre envoyé spécial Franck Madvon.
À genoux sur leur tapis, les fidèles écoutent les harangues de l'homme qui tient la prière du vendredi à l'université de Téhéran. Ahmed Ratami est l'un des plus hauts dignitaires du régime, un conservateur proche du guide Ali Khamenei. De son estrade, il délivre un message aussi politique que religieux. Il appelle la foule à répondre avec fermeté au président américain qui a quitté l'accord sur le nucléaire. Monsieur Trump, dit-il, nous sommes ici à Téhéran, au cœur de la République islamique d'Iran. Et cette foule, unie, plus glorieuse que jamais, vous dit « mort à l'Amérique ». Après la prière, à la sortie de l'université, des manifestants se rassemblent. Beaucoup d'entre eux brandissent des pancartes fustigeant l'Amérique et Israël. Des hommes mettent le feu à deux drapeaux américains. Les manifestants expriment leur colère.
Nous sommes aussi contre vous, les Européens. Vous ne nous avez jamais traités avec honnêteté. Macron, les chefs de gouvernement britanniques et allemands sont tous les mêmes. Pour nous, ils sont comme Trump.
Une heure plus tard, la marche est terminée, une démonstration de force des conservateurs. Ils ne sont pas majoritaires en Iran, mais se sentent pousser des ailes depuis la décision de Donald Trump de sortir de l'accord sur le nucléaire.
Franck Madvon, un des enjeux les plus importants concernant la survie de l'accord sur le nucléaire iranien concerne bien sûr les entreprises, et notamment les entreprises européennes. Ce matin, Téhéran a officiellement demandé à Airbus de se positionner clairement sur la vente conclue par l'avionneur auprès de la compagnie nationale Iranair, vente portant sur une centaine d'avions de ligne. Sans répondre sur ce cas précis, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances, a appelé à refuser la vassalisation de l'Europe en matière commerciale et donc à ne pas plier face aux menaces de sanctions américaines. Dans ce contexte troublé, reportage maintenant sur le plateau du Golan où la fièvre déjà semble retomber après les hostilités en milieu de semaine entre Israël et l'Iran. Les tirs de roquettes sur cette terre annexée par Israël n'ont pas déclenché de consignes particulières de sécurité. Et sur place, finalement, dans un certain fatalisme, les enfants continuent à s'adapter à leur environnement guerrier. Reportage d'Étienne Monin.
Sophia et sa maman Agar sont installées dans le kibboutz Ortal. C'est le dernier kibboutz traditionnel collectiviste du Golan, construit sans véritable charme, en pleine nature, à environ 5 km de la frontière syrienne. Dans ces moments de forte tension, Agar a une méthode pour protéger sa fillette de 3 ans, agir tant faire se peut comme si de rien n'était.
On ne veut pas transmettre notre stress aux enfants parce qu'ils ne savent pas comment le gérer. Donc pour eux, on garde une routine la plus normale possible. Mais pour moi, j'ai préparé un sac qui est dans la maison au cas où il faudrait évacuer, ça sera moins stressant. Mais là, je me sens plus en sécurité depuis que j'ai vu comment l'armée a géré les bombardements qui nous ont visés.
Dans le kibbutz Ortal, les habitants disent qu'ils entendent régulièrement les combats du côté syrien. La dernière alerte remonte à l'été dernier. Il y a une procédure à suivre pour les enfants. Kerem gère la garderie. Il y a 40 enfants de 6 à 10 ans. Aujourd'hui, ils sont dehors, comme si de rien n'était. Mais ils ont les réflexes si besoin, explique Kerem.
On les entraîne pour réagir quand il y a une alarme et ils savent ce qu'ils doivent faire. La première chose qu'on fait, c'est s'allonger par terre. On met les mains sur la tête, on doit rester comme ça jusqu'à ce qu'on entende le boom, et après, on court dans le bunker. Je crois qu'ils sont habitués au bruit, ils sont habitués à tout cela, ils s'en sortent bien. Ils n'ont pas le sentiment qu'il y a une guerre juste là en ce moment. Ils connaissent la situation en Syrie, on leur en parle depuis les 5 dernières années. Ils ont grandi avec cela.
Pour les habitants, la guerre en Syrie est une chose, la présence iranienne en est une autre. Pour eux, c'est un véritable risque, un ennemi à la frontière.
Étienne Monin. À Gaza, plus au sud, un nouveau vendredi de la colère. Plusieurs dizaines de blessés et un mort sont recensés pour l'instant côté manifestants palestiniens. La tension dans l'enclave palestinienne continue à monter à l'approche de l'anniversaire de la création de l'État d'Israël mardi et de l'installation officielle de l'ambassade américaine à Jérusalem lundi. En Irak, des élections législatives demain, les premières depuis la chute de l'organisation État islamique et de son califat autoproclamé. L'enjeu majeur pour le Premier ministre actuel, le chiite Haider al-Abadi, est de conserver la majorité au Parlement pour décrocher un second mandat. À Mossoul, ancienne capitale de l'État islamique et seconde plus grande ville d'Irak, les habitants sont très divisés, c'est ce qu'a constaté pour nous Fanny Bouteillé.
Ce qui frappe à Mossoul, ce sont les milliers d'affiches électorales sur les bords des routes. Ici, pas de législation concernant l'affichage et surtout un nombre renversant de candidats. Plus de 900 pour seulement 31 sièges parlementaires réservés à leur circonscription, la province de Ninive. Pour les électeurs, le choix est donc immense. Ce qui est sûr, c'est que beaucoup d'entre eux veulent en finir avec les élus sortants. Les Mossouliotes estiment qu'ils ont trahi leur ville et n'ont rien fait pour empêcher l'arrivée de Daesh. Des dizaines de quartiers ont été entièrement rasés par les combats. Alors pour certains, le choix est clair, ce sont de nouvelles têtes qu'il faut élire, des jeunes aux mains propres qui sauront utiliser l'argent à bon escient. D'autres ont perdu tout espoir et toute confiance dans la classe politique. Pour eux, aucun candidat ne mérite leur voix, car un an après la libération, ils n'ont reçu aucune aide pour reconstruire leur maison. Si personne ici ne saurait prédire l'issue de ces élections, un candidat fait tout de même beaucoup parler de lui. Khaled El-Obeidi est sunnite, mais il a rejoint la liste chiite du premier ministre actuel, Haider al-Abadi. Natif de Mossoul, ancien ministre de la Défense, il a joué un rôle majeur dans la libération de la ville. Sa popularité pourrait permettre au mouvement chiite de l'emporter. Ce serait un tournant majeur pour cette ville, la seconde plus grande d'Irak, où la population est très majoritairement sunnite.
Fanny Bouteillé. Le Fonds monétaire international est de retour en Argentine. L'institution dirigée par Christine Lagarde a été appelée à la rescousse par le pays et par son président Mauricio Macri, qui veut à tout prix éviter une nouvelle crise financière majeure à l'avenir et disposer d'une réserve de devises dans un contexte de fuite massive des capitaux. À Buenos Aires, c'est une correspondance de Caroline Vic.
Il s'agirait d'un financement préventif, selon le président Macri, pour éviter la crise. Depuis 2006 et le remboursement de la dette du pays sud-américain au FMI, l'organisme international avait disparu du paysage politique et économique. À l'époque, Nestor Kirchner avait payé 10 milliards de dollars au Fonds monétaire, revendiquant ainsi son indépendance économique. Lorsque Macri est élu en 2015, sa politique est diamétralement opposée à celle des Kirchner, plus néolibérale, plus ouverte sur le monde, mais le déficit fiscal augmente de plus en plus, la monnaie dévalue, 1 dollar vaut plus de 23 pesos et l'inflation fait rage. Pour la freiner, la Banque centrale argentine vend ses réserves de dollars et dans le même temps, avec la hausse des taux d'intérêt aux États-Unis, l'Argentine est victime d'une fuite massive de capitaux. En échange d'un prêt, le FMI exige déjà une réduction du déficit fiscal, une ouverture commerciale et une libre mobilité de capitaux. La population, elle, riche de sa dramatique expérience, en 2001 notamment, voit cet accord d'un mauvais œil. 3 Argentins sur 4 sont contre cette assistance financière et se méfient de l'intervention du FMI dans leur économie, aux conséquences déjà connues, austérité, chômage, dette et crise.
Correspondance depuis Buenos Aires de Caroline Vic. menacer, délocaliser et finalement annuler. Les partiels de l'université de Nanterre n'auront pas pu se tenir aujourd'hui comme prévu. Les étudiants grévistes les plus déterminés ayant réussi à les empêcher, même à Arcueil où pourtant rendez-vous avait été donné aux étudiants non grévistes. Bonsoir. D'abord, on va d'abord, avant de retrouver Charlotte Lalanne, écouter le reportage sur cette situation de Benjamin Mathieu.
Alors, les partiels ont été annulés, la fac vient de le tweeter.
Il ne voulait pas quitter les lieux sans une confirmation écrite et c'est par un tweet vers 11h30 que l'université Paris-Nanterre a bien confirmé l'annulation des examens prévus aujourd'hui et demain ici à Arcueil. Une victoire pour les étudiants grévistes qui n'est pourtant pas suffisante pour stopper le gouvernement. Victor Mendes, étudiant et militant NPA, appelle à un mouvement unitaire.
Aujourd'hui, tenir les partiels, c'est arrêter le mouvement. Si le mouvement il s'arrête aujourd'hui, c'est l'ensemble de nos acquis sociaux, que vous soyez grévistes ou pas, qui sont attaqués. Le 22 mai, il faut qu'il y ait un appel clair à tous les secteurs, à la grève, pour que cette grève se généralise.
La centaine d'étudiants en bloqueur a ensuite quitté les lieux en RER, direction d'Enfer-Rochereau, pour rejoindre le mouvement des salariés des catacombes. Les étudiants qui devaient, eux, passer leurs examens délocalisés ici ce matin sont déçus, comme Johanna, qui a espéré jusqu'au bout pouvoir tout de même passer ses partiels de licence en droit.
On va dire que la liberté va dans un sens. On se déplace jusqu'à Arcueil. Pour certains étudiants, c'est à 4 heures de chez eux. Il y en a qui sont levés depuis 6 heures du matin. Un peu décevant de venir jusque-là et se voir annuler les partiels.
Et même si d'autres étudiants comprennent ici leurs revendications, la crainte est d'obtenir un diplôme 2018 au rabais. La plupart réclament en fait de pouvoir passer leurs examens chez eux via Internet pour pouvoir sortir de cette impasse.
Voilà, et c'est justement maintenant qu'on se tourne vers Charlotte Lalanne. Bonsoir.
Bonsoir.
Avec cette question, la tenue d'examen en ligne, comme on vient de l'entendre, est-elle la martingale dans ce genre de situation, Charlotte, qui est présentée comme une solution possible, y compris par le président de l'université, Jean-François Balaudet? Est-ce que ce n'est pas plutôt la preuve que, face à la détermination du mouvement étudiant, l'institution a du mal à trouver des parades?
Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de réponse unique. L'objectif, c'est de faire valider coûte que coûte l'année des étudiants en les évaluant. Pas question de donner des notes automatiques comme le réclament certains étudiants. Cela dévaloriserait les diplômes. Alors dans les faits, oui, il y a un peu d'improvisation. Chaque département cherche la solution la plus adaptée à ses matières, car toutes évidemment ne se prêtent pas à ces partiels dématérialisés. Pour les examens de droit, par exemple, le devoir sur table en ligne est quasiment inacceptable. Trop facile de trouver les réponses sur Internet. En revanche, pour une épreuve de sciences politique, de composition, cette option peut convenir. D'ailleurs, l'UFR de sciences politiques de Nanterre s'y prépare. Concrètement, comment ça marche? Eh bien, l'étudiant va se connecter sur la plateforme en ligne de son département, site parfois déjà utilisé pour rendre des devoirs au cours de l'année. Le sujet d'examen tombe à une heure précise et l'élève a un temps limité pour rendre sa copie. Sur le papier, c'est simple, en pratique, un peu moins. Un exemple, à l'université Paul-Valéry de Montpellier, l'une des premières bloquées, elle a dématérialisé la quasi-totalité de ses partiels dès la mi-avril. Problème, la salle des serveurs a été vandalisée, le site de l'université et la connexion du campus mis hors service temporairement. Autre interrogation, elle porte sur la fiabilité, la crédibilité de ces épreuves. Un casse-tête pour les enseignants contraints d'adapter les exercices à ces nouvelles modalités. Bref, pas de réponse unique, donc la seule serait en réalité politique, me disait à l'instant une enseignante de sciences politiques à l'université de Nanterre. En clair, que le gouvernement ouvre le dialogue avec les opposants à cette loi, qu'ils soient étudiants ou professeurs.
Merci beaucoup Charlotte Lalanne. Le front syndical divisé de fait dans le conflit qui oppose les cheminots au gouvernement depuis maintenant plus d'un mois. Aujourd'hui, seuls la CFDT et l'UNSA ont honoré le rendez-vous qu'avait organisé la ministre des Transports, Elisabeth Borne. La CGT et Sudrail n'ont pas répondu à son invitation. Bonsoir David Ravier.
Bonsoir Benoît.
Nous sommes à quelques jours maintenant du début de la consultation des salariés de la SNCF organisée par les syndicats. Elle se tiendra toute la semaine prochaine et le retour d'une opposition entre les syndicats réformistes et les autres brouillent encore un peu plus les cartes.
Oui, puisque vous le disiez, la réunion de ce matin avec la ministre des Transports, Elisabeth Borne, n'a permis de réunir que deux des quatre principaux syndicats de cheminots à la table des négociations. Pour éviter donc de donner l'impression d'un front désuni sur la marche à suivre pour contrer la réforme, les quatre syndicats ont décidé de poser une question simple aux salariés de l'entreprise. Êtes-vous pour ou contre le pacte ferroviaire porté par le gouvernement ? Avec cette question envoyée à 150 000 salariés de la SNCF la semaine prochaine, les quatre syndicats veulent envoyer un message fort en organisant ce qu'ils appellent un vote action, un peu sur le même modèle qu'Air France. Le but de cette consultation, c'est de mesurer l'opposition à la réforme du système ferroviaire élaborée par le gouvernement et de montrer que la mobilisation est toujours aussi forte. Avec les scores du vote, les syndicats espèrent montrer que les salariés qui ne font pas grève ne sont pas forcément pour les réformes engagées par le gouvernement et ainsi peut-être remobiliser les salariés qui hésiteraient à continuer le mouvement. Enfin, quelle que soit l'issue de ce vote, pour Guillaume Pépi, le patron de la SNCF, cette consultation n'aura aucune légitimité. Selon lui, je cite, « La réforme ferroviaire est un sujet qui ne concerne pas que l'entreprise, mais tous les Français et qui sera tranché par les élus nationaux dans quelques semaines ». Autrement dit, ce n'est pas aux seuls salariés de la SNCF de s'exprimer sur l'avenir de l'entreprise, mais bien aux élus qui voteront ou non la réforme.
Merci David Ravier. 18h15 sur France Culture, la suite du journal avec l'enquête du service investigation de Radio France, signée aujourd'hui Anne Brunel. Bonsoir Anne.
Bonsoir Benoît.
Vous vous êtes intéressée au business du rire.
Oui, une véritable industrie, parce qu'en quelques années, le nombre d'humoristes en France a littéralement explosé. Officiellement, ils sont 2000, mais bien plus en réalité, et qui ont souvent du mal à en vivre. C'est pourquoi certains choisissent d'écrire pour ceux qui sont dans la lumière, comme Raphaël Potier.
Ça veut dire écrire chaque jour 6 ou 7 minutes de texte rigolo, pour n'en garder au final que 3,5. Et dès qu'on a fini la copie du jour, on respire un grand coup et on se dit « maintenant, il faut penser à celle du lendemain ». On vit pas dans une roulotte, mais il faut jamais s'arrêter de pédaler, sinon le vélo il tombe.
Et pour éviter la chute, eh bien d'autres écrivent aussi pour des marques, y compris par exemple pour la firme Carambar, qui a la réputation de payer chaque blague publiée 80 euros. Et alors quand une entreprise veut se payer un humoriste pour sa communication, pour une vraie campagne dans ce cas, les tarifs n'ont plus rien à voir, comme le révèle Didier Porte.
Une agence de pub m'a proposé d'être l'égérie de la pub Peugeot, pour une année à la radio. Alors qu'il venait d'annoncer 6 000 licenciements, il me proposait 340 000 euros. Enfin, si vous voyez le topo. Parce que ça, personne ne donne jamais les prix. Donc j'ai refusé. J'ai eu tort d'ailleurs, je suis un vrai con. J'ai refusé en disant, je peux pas, moi, homme de gauche, alors qu'ils viennent de virer 6 000 personnes, accepter 340 000 euros pour faire le guignol 5 minutes derrière un micro 3 fois par semaine.
Les entreprises, Anne, veulent aussi s'offrir des spectacles d'un genre un peu particulier.
Oui, des spectacles pour elles, conçus à des fins managériales et totalement scénarisés, comme la plume de l'ombre Raphaël Potier l'a récemment fait pour un grand opérateur téléphonique.
Il y avait 600 ou 700 commerciaux Bouygues Télécom qui étaient réunis à Paris par la direction. Et on avait reconstitué un plateau de late show américain avec un anchorman, c'est-à-dire un comédien qui jouait les animateurs un peu rigolos, un peu fun. Et puis toutes les pseudo-invités stars de l'émission étaient des cadres de la boîte qui passaient sur le canapé et qui étaient interviewés façon late show américain, qui étaient sujets de sketch, comme si les collaborateurs étaient en train d'assister à une vraie émission de télé.
Et pour ce genre de spectacle à l'américaine, l'auteur peut percevoir de 6 à 7 000 euros. Mais quand une entreprise veut se payer une star de l'humour pour animer toute la soirée, alors là les tarifs grimpent bien plus haut, jusqu'à 250 000 euros environ.
Et dans ce nouveau marché de l'humour et de la DRH, il y a un homme qui est très demandé, Anne.
Oui, il s'appelle Serge Grudzinski. Alors des entreprises comme Total, BNP Paribas, Vinci, Bouygues, mais aussi de grands groupes étrangers, toutes font appel à lui lors de restructurations ou de conflits internes. Sa méthode, un audit de crise qui se transforme ensuite en spectacle.
Lorsque les gens sont pétés de rire, tordus de rire, pleurent de rire, eh bien, il se passe des choses dingues à l'intérieur, dans la tête et dans le cœur. Par exemple, un fournisseur qui travaillait pour un très grand groupe, il ne voulait plus se voir. Et là où c'est très très impressionnant, c'est qu'en montrant toutes les tensions, toutes les frustrations, tous les conflits de manière très très drôle, bah, les gens se marrent comme des fous. Et vous les remettez ensemble.
Alors avec plus de 500 clients aujourd'hui, Serge Grudzinski a accumulé des milliers d'heures d'entretien de salariés sous tension et il compte bien en faire un spectacle, cette fois hors les murs du CAC 40, sur une scène grand public.
Merci Anne Brunel, votre enquête est à retrouver en intégralité sur franceculture.fr. La mort aujourd'hui de Gérard Genette, grande figure de la littérature, ancien directeur de recherche à l'OHESS, critique et théoricien de la littérature, il était connu notamment pour ses essais sur la poétique. Gérard Genette avait 88 ans. Le retour des nuages et d'un temps couvert demain, c'est ce que prévoit Météo France. Seules les régions de l'Est seront relativement épargnées. Des pluies, possiblement orageuses, s'installeront notamment de l'ouest des Pyrénées jusqu'à la Normandie, sur le centre du pays, notant un risque de grêle et de rafales de vent pouvant aller jusqu'à 100 km/h, température maximale comprise dans l'après-midi entre 20 et 26 degrés.